Bien, bonsoir et bienvenue dans cette superbe salle. Moi, en ce qui me concerne, je suis tout au plaisir d'accueillir Sébastien Dupont et j'espère vous donner envie de discuter avec lui et de lire son livre si vous ne l'avez déjà fait. Pour ma part, j'ai amené deux autres livres en promenade avec moi pour parler du livre de Sébastien. Un premier qui date de 2003, qui s'appelle « L'inconscient de Lips à Freud », qui est écrit par Anne Durand, je vous raconterai un tout petit peu après. Et puis le deuxième, qui est la thèse de Samuel Lézé, qui est une des premières thèses d'anthropologie qui a été faite sur la psychanalyse en France, et qui a été lue sans doute par des tas de gens, mais peut-être pas tellement par les psychanalystes. Si je me réfère à ces deux ouvrages, comme ça, en introduction, si j'ai pensé les choses comme ça, c'est qu'il me semble, à leur propos, qu'on peut attraper quelque chose de la façon dont les idées circulent, ou plus exactement, dont les idées ont du mal à circuler dans le milieu psychanalytique. Et ça, c'est une question qui a à voir avec le cœur du livre de Sébastien Dupont. Le premier livre, celui-ci, j'ai pu le vérifier hier lors d'une communication téléphonique avec Sébastien, qui témoigne d'un esprit fort curieux et lettré, il ne l'a pas lu. En disant ça, je cherche nullement à prendre Sébastien Dupont en défaut, ni à le mettre en difficulté. S'il ne l'a pas lu, bien qu'il soit très informé, c'est que l'information sur sa parution a dû très peu circuler. Ce livre-là est paru en 2003 et, à ma connaissance, c'est l'année dernière, au mois de décembre, donc vous voyez, plus de 10 ans après, qu'à Toulouse, pour la première fois lors d'une journée de travail, quelqu'un a fait une communication sur ce livre-là. Dans une journée organisée par une association de psychanalystes, à qui je voudrais rendre hommage au passage, il s'agit d'une association toulousaine qui s'appelle Alters, et je voudrais leur rendre un hommage ou faire un petit clin d'œil particulier parce que c'est grâce à eux que Sébastien et moi nous sommes rencontrés, invités que nous étions dans un colloque organisé par eux sur les mutations familiales il y a un an, quelque chose comme ça. Donc oui, on se rend compte, ça crée des liens, du coup on échange et il y a des prolongements. En ce qui me concerne, j'avais fait une proposition à la sortie du livre de Anne Durand. Moi, j'ai de la chance parce qu'Anne Durand est une amie. Elle est souvent venue à Bordeaux dans des petits cercles. On a souvent travaillé ensemble. Et j'ai fait une proposition de recension par rapport à la revue de l'association dont je suis membre en ce qui me concerne, qui est Espèce Analytique. Et on m'a gentiment dissuadé. On me dit, oh oui, bien sûr. Mais enfin, tu comprends, ce n'est pas tellement le moment. Remuer ces questions-là, etc. C'était une réponse anticipée à tous les dérapages de Michel Onfray, ceci dit. Hein. C'est-à-dire, ça vient dire, au fond, c'est quand même plutôt intéressant, ça vient dire que le concept d'inconscient n'a pas été inventé par Freud, que style il l'a emprunté à d'autres, que même il se l'est accaparé d'une certaine façon, avec ce que Anne Durand nomme très très joliment un déni de préséance. C'est-à-dire qu'il a fait comme vous ou moi, il a trouvé des trucs qui étaient pensés avant lui, puis à un moment donné, il les a bricolés à sa façon, et tellement qu'il a dit, ben, c'est moi qui l'ai inventé. Voilà. Et c'est sympathique, ça, c'est humain, on fait tous pareil. Et dans le texte de Freud, on trouve comme ça des petites notes disant, j'ai trouvé chez Theodor Lips, mieux que je ne l'aurais souhaité, formaliser la notion d'inconscient, il dit comme moi. Il dit comme moi, oui, mais comme c'était 20 ans avant, c'est plutôt lui qui dit comme l'autre. Vous voyez, c'est ça. Ça, c'est quand même intéressant de voir ça et d'aller faire ce que Anne proposait, une archéologie comme ça de la notion d'inconscient à travers l'œuvre de Theodor Lips, qui lui-même avait fait des emprunts à Wundt. Il ne faut pas penser que Freud ne connaissait pas. Dans les lettres à Fliss, on trouve qu'en 98, il a passé tout l'été à lire l'ouvrage de Theodor Lips, qui faisait quand même 700 pages. Hein, et sur lequel la notion d'inconscient est absolument... Moi, j'ai fait le test avec des copains psychanalystes de lire, en faisant des communications, des extraits de Theodor Lips. Tout le monde aurait voté que c'était Freud, sauf que non, c'était Lips 30 ans avant. Donc ça vaut le coup quand même de savoir des choses comme ça. Et pourtant, on fait l'expérience, il y a quelque chose qui résiste dans le fait de pouvoir en parler simplement. Si on va à la bibliothèque de l'Institut rue Saint-Jacques à Paris, les œuvres de Theodor Lips, il n'y a pas, c'est inconnu au bataillon, il n'y a pas moyen, c'est trop subversif, semble-t-il, de s'intéresser à ça. Et le travail qu'a fait Anne Durand à l'époque, il se trouve qu'Anne Durand a ce qui s'appelle des humanités, elle a une thèse de droit, elle était psychiatre, et puis elle a aussi fait une licence d'allemand, donc elle est germaniste, et donc elle a trouvé par internet Theodor Lips quelque part au Danemark, elle l'a lu en allemand, elle a fait tout un travail là-dessus en vérifiant sa traduction avec des amis germanistes, traducteurs. Mais ce bouquin-là, qui est maintenant épuisé, on a mis 10 ans à ce qu'il y ait une journée dans une ville pour en parler. C'était au mois de décembre. Vous voyez, c'est quand même curieux. Alors, l'autre bouquin, je vous raconte un tout petit peu. Samuel Désé, ça c'est beaucoup plus récent. C'est paru en 2010. L'autorité des psychanalystes. Moi, je me croyais plutôt pas mal informé. Plutôt au fait de ce qui paraît, grâce à la fréquentation et du rayon ici, et puis comme nous tous, tous les réseaux, Internet, plein de choses, etc. On reçoit plein de... Et j'ai découvert ça il y a un peu plus de 6 mois à Bruxelles, chez des amis au petit déjeuner. Jacques de Backer, qui est sociologue, cofondateur avec d'autres copains de la revue Nouvelle en Belgique, qui venait de faire une recension sur le bouquin de Samuel Lézé, en me disant « mais est-ce que tu connais ?» etc. Moi, je dis, ben non, t'as jamais entendu parler, ben non. Je dis, tu sais, nous en France, ça circule peut-être moins bien que dans la Belgique, hein, quand même. Et donc, vous voyez, j'ai fait ce détour pour lire ce bouquin, qui là aussi, Sébastien me disait que Samuel Lézé avait été invité, là, récemment, par une association de psychanalystes, la SPP pour les nommer, et par les autres points, c'était quand même il y a 3 ans, on a tous des bulletins internes, on a des sites internet, on a des revues et tout ça. Pas une ligne sur la thèse d'anthropologie de Samuel Désé sur l'état de la psychanalyse. Donc, il semblerait comme ça qu'il y a des choses auxquelles il ne faudrait pas toucher. Une note de ce type-là, ça je l'ai vérifié... j'avais invité à Paris dans un petit séminaire un de nos amis et collègues, François Daché. Ça fait 25 ans que François Daché travaille sur l'œuvre de Herbert Graff. Herbert Graff, c'est le petit Hans qui a grandi. Il ne faut pas penser qu'il a eu 5 ans toute sa vie. Il a grandi et puis même si Lacan a trouvé que ses formules de sortie de l'audit étaient un peu tordues, il a eu des enfants. Et puis, il a même inventé quelque chose d'extraordinaire, qui est le métier de metteur en scène d'opéra, avec une carrière internationale extrêmement brillante. Il a fondé, qu'il sait, chez les psychanalystes, l'école d'opéra populaire aux États-Unis. Il a été le premier, alors qu'il était en poste à Genève, à autoriser la retransmission télé d'opéra. Et puis, toute sa vie, il a toujours écrit des choses en disant toute cette créativité qu'il avait développée, c'était pas sans lien avec ce qui lui était arrivé quand il était enfant et la façon dont il avait été écouté pendant une période. Alors, c'est quand même extraordinaire parce qu'au fond, c'est une publicité fantastique pour l'après-coup, les effets d'après-coup de ce qui aurait été un travail analytique. Mais ça, on n'en parle pas. Alors, on est dans une situation, Sébastien, elle mérite de lever toutes ces questions, tout à fait paradoxale. Puisqu'au fond, on dirait que ceux qui sont supposés défendre de par leur pratique et de par leur engagement, qui généralement est grand, qui dure depuis des années, se prolonge souvent jusqu'à épuisement, c'est-à-dire la mort, qui s'appellent a priori des psychanalystes, deviennent au fond presque les pires ennemis de la discipline qu'ils sont supposés défendre. Souvent les rois des maladroits quand ils en parlent. Et comme le disait notre ami Roland Gori, qui est souvent venu ici, le plus difficile devient, au fond, de défendre les psychanalystes malgré les psychanalystes. Alors, moi, je crois que c'est extrêmement important d'abord de ces questions. Et c'est là-dessus que le travail de Sébastien porte. Un travail extrêmement documenté, un travail qui est plein de concepts, un travail conceptualisé, pour essayer d'aborder quelles sont diables les raisons qui font qu'au fond, il y a peut-être toute une opposition interne à pouvoir, comme ça, parler paradoxalement, transmettre quelque chose de positif sur la psychanalyse. Hein ? Voilà. Alors, moi, c'est un petit peu comme ça que j'avais envie d'introduire les choses. Alors, on voit que Sébastien a une plume alerte, hein, de temps en temps, je cite comme ça, quand première partie, malaise dans la psychanalyse, on trouve un petit sous-chapitre, quand l'avant-garde devient l'arrière-garde. Vous voyez, c'est pas mal de s'interroger un peu sur ces choses-là. Et voilà, moi je crois que Sébastien va maintenant nous présenter un peu lui-même quelle a été sa démarche d'écriture, et puis qu'on va discuter, je pense qu'il y a vraiment de quoi.
Merci beaucoup Serge pour cette présentation, merci à toutes et à tous d'être là, merci à la librairie Mola de m'accueillir. Je vais peut-être vous parler un petit peu de ma démarche, et comme je peux imaginer que vous n'avez pas lu le livre, vous présenter un peu les idées centrales pour qu'on puisse discuter. D'abord sur la démarche, puisque bien sûr c'est un livre assez engagé, assez personnel, peut-être un peu provocateur, enfin le titre du moins est provocateur. J'ai, même si je suis assez jeune, tout un parcours dans la psychanalyse, on pourrait dire. Comme beaucoup, c'est à partir du lycée que je m'y suis intéressé, que ça m'a fasciné, parce qu'il faut bien dire que c'est fascinant et que ça fascine beaucoup de gens, sans doute beaucoup d'entre vous. C'est fascinant, c'est passionnant, c'est vrai, à chaque fois que je relis Freud, je retrouve ce même plaisir, on sent bien que ça parle de nous, que ça dit des choses parfois un peu contre-intuitives, mais décalées, passionnantes sur l'humain, sur les relations, sur l'affectivité, sur l'amour, sur les angoisses, etc. C'est un modèle, à mon avis, irremplaçable. Donc j'ai eu ce parcours intellectuel, mes études, la pratique de psychologue, une thèse en psychologie d'orientation psychanalytique, des articles, etc., des recherches. J'ai fréquenté plusieurs milieux, plusieurs écoles, plusieurs villes. J'ai fait un petit tour au Québec, etc. Donc j'ai fait un petit tour dans plusieurs cercles psychanalytiques. Et au fond, au fur et à mesure de ces années, l'enthousiasme était toujours là, mais il a été un petit peu amoindri par le sentiment que les milieux psychanalytiques étaient plus fermés que ce que j'imaginais, souvent assez dogmatiques, qu'il n'y régnait pas toujours une liberté de penser, encore moins une liberté de débattre. Je me suis aussi aperçu que certains dogmes psychanalytiques ou certains principes sur le cadre, sur des règles techniques, etc., ou peut-être éthiques, parfois devenaient des freins à l'aide psychothérapeutique qu'on peut apporter aux patients qu'on peut être amené à rencontrer. Et c'est déjà assez difficile d'apporter un peu d'aide aux gens, parce qu'il y a tous ces débats sur des modèles psychothérapeutiques entre eux qui se crêpent le chignon, mais ce qu'aucun ne dit, c'est qu'aucun ne fait de miracle au fond, et que chacun peut faire un petit peu quelque chose, mais ça reste finalement toujours assez modeste. Alors si en plus on se freine par des dogmes, des principes et des tabous, on peut vraiment plus faire grand chose du tout. Et au fond, peut-être que certains, je sais que certains psychanalystes m'ont dit, mais là tu te places en dehors, tu es moralisateur, tu es critique du dessus, etc. Et au fond, ce que je souhaite dire, c'est que ce livre n'est pas du tout une critique du dessus ou du dehors, c'est avant tout une critique de moi-même et de ma propre pensée, et ça fait suite à mes conflits intérieurs dans mon propre rapport à la psychanalyse, une lutte avec mes propres idées, avec des idées qui s'étaient dogmatisées en moi, et une lutte avec des principes techniques que j'appliquais, je travaillais en pédopsychiatrie, sans plus les remettre en cause, etc. Et au fond, donc, j'avais ce sentiment tout simplement de perdre ma liberté de penser dans certains milieux psychanalytiques, non seulement de ne plus pouvoir toujours dire ce que je voulais dire, mais alors de ne plus pouvoir citer tel auteur parce que c'est pas de la bonne école, ne pas pouvoir invoquer d'autres sciences humaines parce qu'il faut rester toujours psychanalytique, etc., etc. Un autre facteur a été pour moi toutes les polémiques, disons, des 10 dernières années, que ce soit le livre noir, Michel Onfray, les questions autour de l'autisme, du statut de psychothérapeute, etc. Enfin, je pense que vous avez tous suivi ces polémiques. Et au fond, étant, si je peux dire, interne au milieu psychanalytique, j'ai sincèrement été souvent révolté par la façon dont les psychanalystes qui entendent représenter la psychanalyse, au fond, bon, tous les psychanalystes médiatiques que vous connaissez, qui sont souvent au fond des représentants autoproclamés de la psychanalyse, comment ces psychanalystes présentaient la discipline, souvent de façon très dogmatique, très anachronique, très loin des pratiques réelles. Souvent, on oublie de dire que ces psychanalystes-là, pas tous, mais n'ont plus de pratique, ou s'ils ont une pratique, c'est plutôt une pratique de formateur de psychanalystes, mais pour la plupart, ils ne voient plus de patients, ou en tout cas plus de patients en institution. Ils voient des patients triés sur le volet, qui sont parfois des élèves de leur propre école de psychanalyste, qui sont dans un rapport parfois de fascination à eux et qui font une demande d'analyse. Mais ils ne voient plus de patients tout venant, comme on dit. Et donc, j'étais assez révolté aussi parce que, ayant fréquenté beaucoup de milieux psychanalytiques, j'ai vu beaucoup de praticiens très ouverts, très soucieux du mieux-être de leurs patients, très ouverts à la plasticité du cadre, prêts à changer les pratiques, etc., à se coltiner des cliniques assez difficiles avec des toxicomanes, de la psychiatrie lourde, etc. Enfin, loin des cabinets confinés de psychanalyse orthodoxe. Je fréquentais ces milieux assez ouverts, assez dynamiques, assez inventifs, et je voyais de l'autre côté les représentants de la psychanalyse donner une image qui me paraissait pas du tout représentative de ce qui peut se passer donc au cœur des milieux psychanalytiques. Et donc, j'ai voulu, de ma modeste place de jeune praticien, avec à peu près aucun argument d'autorité, donner mon avis sur ces questions et peut-être relayer d'autres façons de voir la psychanalyse, parce que je ne parle pas que de ce que je pense dans ce livre. J'essaie de relayer les pensées de jeunes auteurs, de Samuel Lézé, mais aussi d'autres psychanalystes, plus ou moins jeunes d'ailleurs, qui essayent de mobiliser et de redonner de la créativité à la psychanalyse. Et qui, au fond, tracent une sorte de troisième voie, c'est-à-dire des praticiens qui sont à la fois très attachés au modèle psychanalytique, mais qui ne veulent pas la voir comme une appartenance, comme si on prenait sa carte dans un parti et qu'il fallait toujours vouer allégeance à des principes, à des dogmes, au culte de la personnalité d'anciens psychanalystes, Freud, Lacan, etc. Alors au fond, la thèse centrale du livre, elle est simple, c'est l'idée que l'affaiblissement du mouvement psychanalytique en France, qui est assez objectif, on pourrait parler des signes de cet affaiblissement, est lié principalement à des facteurs internes et non pas externes, comme on en parle beaucoup plus souvent. On parle souvent des thérapeutes cognitivo-comportementalistes qui attaquent la psychanalyse, des familles de patients autistes, de l'ARS, de l'INSERM, etc. Bon, ces conflits existent, mais à mon avis, l'essentiel des problèmes sont internes au mouvement psychanalytique. Et c'est ce que j'ai voulu dire de façon peut-être un peu forte et un peu provocateur avec ce titre, qui, n'est pas très nuancé, mais essaie de montrer, de refléter la violence aussi de ce qui se passe, parce que vraiment dans les milieux psychanalytiques, on peut ressentir une sorte de sclérose. Il y a quelque chose d'un petit peu mortifère, il y a une ambiance parfois vraiment qui est mortifère. Je dis les choses de façon un petit peu dure, mais c'est telle que je l'ai vécue. Et une atmosphère mortifère qui mène la psychanalyse, à mon avis, eh bien, une sorte d'affaiblissement qui tend à la disparition. Et on perd tout ce qui pouvait faire le sel de la psychanalyse, sa créativité et son inventivité. Et surtout son souci pour l'humain et pour les patients réels tels qu'ils sont aujourd'hui et la volonté de les aider. Et donc mon souhait au fond avec ce livre, c'est surtout de, non pas tellement de convaincre les gens de mon analyse des difficultés du mouvement psychanalytique, mais plutôt d'ouvrir ce champ, d'ouvrir ce débat sur les problèmes internes du mouvement psychanalytique. Je sais qu'il y a des psychanalystes qui s'y intéressent et qui commencent à tirer des sonnettes d'alarme. Mais on n'en parle quand même pas beaucoup, et encore moins avec le grand public, avec les usagers, avec les patients. Et ce que j'ai voulu, c'est essayer d'ouvrir cette porte et de dire on peut parler des problèmes, ils existent. Ils sont beaucoup plus réels et beaucoup plus importants que les faux débats sur lesquels on s'enferme souvent. J'ai vu trop de ces polémiques des dernières années s'enfermer dans des faux débats. Combien de fois on part de vraies questions sur qu'est-ce que la psychanalyse peut proposer en comparaison avec les TCC, etc. Et on finit, grâce parfois à l'aide de gens comme Michel Onfray, dans des faux débats sur mais vraiment combien de temps Freud a-t-il pris de la cocaïne, et puis surtout, question cruciale, trompait-il ou pas sa femme avec sa belle-sœur, vraiment a-t-on des documents, etc. Donc des fausses questions, alors qu'il y a des vraies questions à poser à mon avis sur la psychanalyse aujourd'hui. Mais seulement pour pouvoir poser ces questions, et j'en ai fait maintes fois l'expérience, il faut passer des obstacles, surtout dans les milieux psychanalytiques, des résistances. Vraiment, c'est difficile de parler de ces questions un peu sensibles dans les milieux psychanalytiques. On a l'impression que la psychanalyse est en sucre aux yeux de certains psychanalystes. On ne peut rien dire sous peine de la briser. Et on est souvent confronté à des contre-arguments dès qu'on parle de ces questions. Le premier que j'ai souvent vécu, c'est le chantage à l'antifreudisme ou à l'accusation d'antifreudisme. Si tu critiques quelque chose, c'est qu'en fait tu es anti-psychanalytique, même sans le savoir, c'est inconscient. Ou alors tu règles des comptes par voie détournée, tu es mécontent de ton psychanalyste, ou c'est un effet de contre-transfert, ou ce genre de choses. En fait, des attaques ad hominem, c'est-à-dire au lieu de contredire les idées, on attaque la personne qui énonce ses idées. Un peu comme fait Michel Onfray avec Freud ou d'autres psychanalystes avec Michel Onfray. Et en fait, on s'enferme dans des débats de personnes en fait assez inintéressants. Alors, pour dire en quelques mots, quelques-unes de mes idées principales, moi, il me semble que justement, au-delà de cette question de personnes, il y a des vraies raisons historiques, sociologiques, des mouvements de groupes, d'institutions qui ont abouti à la situation de la psychanalyse telle qu'elle est aujourd'hui. À mon avis, il y a d'abord tout simplement une dimension historique à prendre en compte. La psychanalyse a connu en France un essor plutôt tardif par rapport à d'autres pays comme les États-Unis, l'Angleterre ou d'autres pays encore. Un essor assez tardif, mais alors par contre elle a connu un âge d'or assez flamboyant qu'on peut situer quelque part entre les années 60 et 80, un âge d'or pendant lequel, comme vous le savez, la psychanalyse a acquis une autorité, c'est le terme de Samuel Lézé, très grande dans l'espace public en France. On se souvient d'Olto, etc. Il n'y avait plus une émission de radio, de télévision intellectuelle sans son psychanalyste qui était écouté. Il y a eu une démultiplication des psychanalystes en cabinet, dans les institutions, etc. En fait, on est passé en quelques dizaines d'années à quelques centaines, à 6000 psychanalystes avec plaques devant leur cabinet. Mais en fait, si on étend aux praticiens d'orientation psychanalytique, psychiatres, psychologues, on est à plusieurs dizaines de milliers, peut-être 30, 40 milliers de praticiens d'orientation psychanalytique. Donc c'est assez phénoménal. Et donc, il y a eu cette période d'âge d'or, bon, d'enthousiasme très grand, cette période faste, bon, qui a retombé, comme tout grand enthousiasme. Mais au fond, pendant cet âge d'or, on est allé si haut. La psychanalyse a été tellement idéalisée, qu'on lui a demandé tant, enfin, on a attendu d'elle tellement, surtout sur ses vertus, concernant ses vertus psychothérapeutiques, on a attendu d'elle tellement, et les psychanalystes, il faut bien le dire, ont participé à ça, assez indirectement, à l'idée que la psychanalyse était tellement extraordinaire, que nécessairement, aujourd'hui, elle ne peut que décevoir. On pouvait s'y attendre, elle ne peut que décevoir avoir été tellement idéalisée. Et c'est ce qui se passe, à mon avis, aujourd'hui. Elle déçoit, mais seulement au lieu qu'on retombe tranquillement de cette période d'enthousiasme un peu fou, et pour revenir à une situation plus normale, au fond, où la psychanalyse pourrait être considérée pour ce qu'elle est, ni plus ni moins, eh bien, au fond, me semble-t-il, certains psychanalystes gardent de cette époque une espèce de complexe de supériorité et parfois une arrogance et surtout une grande incapacité à être remis en cause par les autres et même en interne. Et ce qui fait que le débat et l'autocritique deviennent très difficiles autour de la psychanalyse, mais seulement on peut dire, et ça me paraît sensé, une discipline, si elle ne peut plus être critiquée, ne plus s'autocritiquer, elle est vouée à se nécroser et à mourir d'une certaine manière. Autre facteur, peut-être aussi, on pourrait dire, facteur, ça on n'en parle pas souvent, mais au fond, facteur politique ou institutionnel, la psychanalyse souffre beaucoup de problèmes politiques. Comme vous le savez certainement, elle est très morcelée, pour le dire en un mot, elle est passée en 50 ans d'une association nationale à entre 20 et 25 à peu près, de scission en scission, de division en division, donc il y a à peu près 20 ou 25 sociétés psychanalytiques qui tournent, et il y en a peut-être encore plus. Donc incapacité à s'organiser, à se fédérer, c'est-à-dire à organiser une sorte de politique interne, on pourrait dire. Et ce problème de politique interne, eh bien, crée des grands problèmes de politique externe, on pourrait dire. C'est-à-dire que, comme le mouvement psychanalytique français n'a pas de représentant, tout simplement, n'a pas d'organe représentatif, il lui est à peu près impossible de dialoguer avec les instances d'État, par exemple, les ministères, etc., ou avec les associations de familles de patients, ou avec les autres organes publics, de santé publique, etc. Il lui est impossible de dialoguer vu qu'elle n'a pas d'organe représentatif. Ce qui fait qu'il y a cette place vacante de représentants légitimes qui n'existent pas. C'est aussi pour ça que s'engouffrent tous ces psychanalystes médiatiques que vous connaissez, qui prennent la place parce qu'elle est à prendre et qu'ils souhaitent bien la prendre alors qu'ils ne représentent vraiment pas grand-chose. C'est ce que je tiens à dire, en tout cas c'est ce que je pense. Et autre aspect de ces problèmes politiques, le mouvement psychanalytique est tellement divisé en petites chapelles, en petits groupes. On pourrait se dire, c'est pas si grave, c'est un peu folklorique, mais c'est pas si grave, ça fait des petits clubs. Mais au fait, si, c'est grave, puisque ça a eu de grandes influences, de grandes conséquences, notamment sur les théories et les pratiques psychanalytiques. Pourquoi ? Parce que chaque groupe se constituant en forme de petit clan, il y a des réflexes claniques qui se créent et qui emportent les questions théoriques et techniques. Et donc, pour s'identifier, pour se différencier, les petits groupes utilisent les théories et les techniques. Par exemple, certains vont dire, on s'identifie par tel auteur ou telle théorie ou telle façon de faire. Nous, c'est la séance courte. Nous, c'est l'interprétation par l'archaïque. Nous, c'est Lacan. Nous, c'est etc., etc. Ce qui fait que, au lieu que les théories et les pratiques puissent être normalement discutées, dans une sorte de pot commun, ils ne sont plus discutables et ils deviennent des sortes de bannières identitaires auxquelles on ne peut pas trop toucher. Et au fond, il y a dans chaque groupe des choses auxquelles on ne peut pas toucher. À tel auteur, on ne peut pas toucher. Tel concept, on ne peut pas toucher. Telle théorie, on ne peut pas toucher, parce que si on y touche, c'est notre identité de groupe qui s'effondre. Et au fond, pour reprendre une expression freudienne, de façon un petit peu amusante, on pourrait dire que dans les milieux psychanalytiques se sont accumulés beaucoup de totems et de tabous. Des totems identitaires, des auteurs, des théories, des idées qu'on brandit comme des drapeaux, des totems, un peu au sens lévi-straussien, et aussi beaucoup de tabous, des choses dont on ne peut pas parler, des questions qu'on ne peut pas soulever, des auteurs qu'on ne peut pas citer. Il y a des pratiques qui ne sont pas très glorieuses, qui se produisent dans les milieux psychanalytiques, je le sais de l'intérieur. Vous proposez un article à une revue, il vous est renvoyé, on dit tel auteur et tel auteur et tel auteur, ça ne nous arrange pas que vous le citiez. Par contre, vous ne pourriez pas citer un tel, même s'il n'est pas vraiment en lien, quand même, il faudrait, c'est important, etc. Alors évidemment, dans ce genre de pratique, eh bien, c'est l'intelligence psychanalytique qui se perd au profit de querelles de chapelle et d'enjeux de carrière, etc. Et au fond, se crée comme ça dans les milieux psychanalytiques ou à l'échelle de la psychanalyse entière, même si j'essaye de ne pas faire d'amalgame, des tendances au dogmatisme psychanalytique. Et au fond, il me semble que souvent, quand j'écoute des prises de parole de psychanalystes dans les médias ou dans des colloques, j'ai l'impression qu'en fait, ils ne parlent pas tant de psychanalyse que de psychanalysme, pour reprendre l'expression de Robert Castel, c'est-à-dire d'une forme comme ça, idéologique de la psychanalyse, un peu radicalisée, une sorte de caricature de psychanalyse. Caricature de psychanalyse qui, au fond, se parle à elle-même, tourne pour elle-même, est parlée par des psychanalystes pour leur propre milieu, etc., qui n'est plus oxygénée par une discussion avec les autres disciplines ou avec l'extérieur ou avec les publics, mais qui tourne un petit peu en vase clos, et qui, au fond, et c'est ça le plus important, ne s'intéresse plus, au fond, à l'homme tel qu'il est, mais à l'homme tel qu'il doit être, selon des écrits qui datent parfois de 50 ou 100 ans, ceux de Lacan, ceux de Freud, selon des théories élaborées à Vienne en 1900 avec des patients qui n'avaient rien à voir avec les patients d'aujourd'hui, et au fond des théories construites autour de représentations de l'homme et de la famille, notamment un peu d'un autre temps, et qui ne s'actualisent plus par cette communication avec l'extérieur, et qui du coup en viennent à devenir de plus en plus dogmatiques et de plus en plus moralistes. Peut-être que vous verrez ce dont je veux parler, mais de plus en plus de psychanalystes se présentent dans les médias, non plus seulement comme des psys qui parlent de leur pratique ou de leurs patients, mais comme des idéologues qui ont des vues sur la société telle qu'elle va, sur le monde tel qu'il va, et des vues, bien souvent, il faut le dire, assez réactionnaires. Ce qui, historiquement, est assez extraordinaire comme mouvement, puisque la psychanalyse a plutôt été progressiste pendant longtemps, notamment sur les questions de mœurs. Et vous avez certainement entendu aujourd'hui plusieurs psychanalystes prononcer assez défavorablement ou de façon toujours un peu ambiguë autour de multiples évolutions des mœurs ou de la société, pour parler de la perversion de la cité, de la déshumanisation de la société, etc., etc. Et au fond, je vois souvent dans ces théories, en fait, plus un attachement à une figure de l'homme d'un autre temps. Effectivement, les hommes d'aujourd'hui ne ressemblent en rien aux hommes tels qu'ils étaient décrits par Freud. C'est pas pour autant qu'ils sont devenus pervers ou qu'ils se sont déshumanisés. Si bien qu'au fond, à mes yeux, la psychanalyse traverse rien de moins qu'une crise d'identité. Au fond, elle devient de plus en plus morale, de plus en plus idéologique par certains côtés, et elle a perdu de l'autre ce qui est, à mon avis, le plus important, c'est-à-dire où elle s'est éloignée, plutôt, je vais être plus nuancé, de sa visée de psychothérapie. On ne le dit pas souvent, mais bon, Freud comme vous le savez, vous voyez à la fois la psychanalyse comme une théorie, un modèle d'investigation de l'âme, et il y voyait beaucoup de choses. Mais il la voyait avant tout comme une psychothérapie. Il l'a dit jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier texte sur Analyse avec fin et Analyse sans fin, écrit un an avant sa mort. La psychanalyse est avant tout une psychothérapie qui a pour visée l'apaisement des souffrances et des symptômes. Or, comme vous le savez, de nombreux psychanalystes aujourd'hui ont tellement voulu se distancer des autres modèles de psychothérapie, des TCC, etc., qu'ils ont amené la psychanalyse plutôt vers le chemin d'une méthode de connaissance de soi, qui parfois ressemble beaucoup à des méthodes de développement personnel. Alors, quand on dit ça à des psychanalystes, et bien sûr, ils sont très choqués. Mais en entendre certains, la psychanalyse viserait surtout à remettre le sujet en adéquation avec son désir, etc. Enfin, ce genre de choses, à mes yeux, c'est du développement personnel, dit avec des concepts un peu plus charpentés, mais c'est du développement personnel. Et bien, à trop s'éloigner des visées thérapeutiques, c'est aussi l'identité et le cœur, à mon avis, de la psychanalyse qui se perd, et l'édifice s'effondre, au fond. L'édifice s'effondre et se perd aussi le contact avec la société, avec le public, disons, qui, à mon avis, je peux parler que de ce dont j'ai l'impression, ne voit plus vraiment c'est quoi l'éthique de la psychanalyse ou c'est quoi que veulent les psychanalystes, au fond. Et bien sûr, beaucoup de psychanalystes d'aujourd'hui brandissent de grands principes, disant que la psychanalyse est l'éthique du sujet, la psychanalyse défend le sujet, la psychanalyse est l'un des derniers humanismes, etc. Bon, ça c'est assez déclamatoire, mais les gens sont pas bêtes, les familles de patients sont pas bêtes, ils demandent plus. Mais oui, mais d'accord, mais en quoi ? Avec les patients, en psychiatrie, vous faites comment? Avec la schizophrénie, qu'est-ce que vous proposez? Avec les autistes, qu'est-ce que vous proposez? En quoi ça consiste? En quoi c'est différent des TCC? En quoi c'est plus humaniste, etc. Et là, souvent, il y a fin de non recevoir, refus d'avancer dans des questions concrètes, grands principes ou... déclaration du type il faut le vivre pour en parler, etc., mais on ne peut pas en parler. Et là, à mon avis, c'est très dommageable, puisque qu'est-ce qui se passe? Une partie du public, en tout cas, et surtout une partie du public qui est en demande de psychothérapie, de soins, etc., peut se dire, mais en fait, ils ne sont pas si humanistes que ça. Et ils défendent pas autant les sujets qu'ils le prétendent. À mon avis, c'est ça qui s'est passé autour du fameux documentaire un peu malheureux et assez mal intentionné, Le Mur, autour de ce documentaire fait sur le rapport des psychanalystes aux autistes. Ce qui s'est passé, au-delà de la polémique, de la manipulation de la réalisatrice, etc., c'est que le public s'est dit... Le public qui n'avait pas forcément de préjugés sur le psychanalyste s'est dit, mais ces gens ne se soucient pas des patients, ne se soucient pas de ce que nous vivons, ne se soucient pas des autistes tels qu'ils sont. Et au fond, que ce soit une impression, ou que ce soit vrai ou pas, bon, c'est surtout très dommageable, puisque pour moi, étant de l'intérieur, travaillant dans un hôpital psychiatrique comme il en existe des dizaines en France, je vois bien que les praticiens d'orientation psychanalytique sont très soucieux du mieux-être de leurs patients, essayent d'inventer des tas de choses, des tas de dispositifs, bricolent, ne sont pas du tout aussi dogmatiques que certains représentants de la psychanalyse le laissent entendre, essayent parfois de mélanger des pratiques. Ça, on n'en parle pas parce qu'il y a souvent des idées de pureté entre modèles thérapeutiques, essayent d'inventer des choses nouvelles, mais ça, on n'en parle pas. Et donc, avec ces polémiques, c'est rien de moins que l'image de la psychanalyse qui se dégrade complètement. Et donc, au fond, Ce que je voudrais proposer ou ouvrir comme discussion, c'est que les praticiens ou les familles ou les patients qui ont traversé des thérapies psychanalytiques puissent prendre la parole et en toute liberté, quel que soit leur statut. Parce que dans les milieux psychanalytiques, le statut, ça compte beaucoup, l'âge compte beaucoup, etc. Enfin, il y a beaucoup de hiérarchie dans les milieux psychanalytiques qui, évidemment, empêche une richesse de débat et l'émergence d'idées nouvelles. Et il m'a semblé que, à ma modeste mesure, je pouvais essayer de prendre la parole, mais pas juste pour moi avoir la parole, mais pour que d'autres qui s'intéressent ou qui veulent promouvoir la psychanalyse puissent en parler autrement qu'on en parle trop souvent. Et parler de tout discuter, à mon avis, on peut tout discuter dans la psychanalyse, il faut mieux tout discuter. La psychanalyse n'est pas sacrée, les théories ne sont pas sacrées, il faut mieux les discuter, c'est au contraire les faire revivre que les discuter.